Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement pour le nouvel épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Francis, ingénieur du son. Bonjour Francis.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent?
Bon, je m'appelle Francis, je suis ingénieur du son pour l'audiovisuel, à la fois la fiction et le documentaire. Et je travaille à la fois sur les tournages et en post-production.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Pourquoi tu as décidé de faire ce métier? Qu'est-ce qui t'a donné envie?
Alors, mon parcours, comme beaucoup d'ingénieurs du son, au final, on est beaucoup à avoir une culture avant tout musicale. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'avais envisagé de faire une formation pour devenir ingénieur du son en musique. Et au cours de ma formation, j'ai découvert le métier du cinéma et ça m'a vraiment passionné. Mais c'est vrai que c'est assez courant. Pour les ingénieurs du son, on arrive de la musique et on bascule ensuite parce qu'en fait, c'est des métiers qu'on ignore souvent.
Est-ce qu'il y a des études obligatoires à réaliser pour être ingénieur du son ou on peut travailler sans études, sans formation?
Il n'y a pas de parcours obligatoire. Après, il faut apprendre le métier. Donc, on peut apprendre par l'expérience, on peut apprendre par des formations. Mais c'est vrai que c'est plus simple de passer par une école. Moi, j'ai fait le parcours un peu classique. C'est-à-dire, en gros, il faut Bac plus 2 pour entrer dans les écoles de cinéma. Donc, j'ai fait 2 ans de prépa. J'ai fait une prépa spécifique. Et après, j'ai fait la FEMIS au département son.
Ingénieur du son, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi tu sers sur un tournage? Parce qu'on peut avoir l'idée que tu tiens une perche et que tu cours partout, que tu accompagnes les personnes qui parlent, mais ce n'est pas du tout que ça.
Alors, il y a différents postes au tournage. Il y a essentiellement 2 postes principaux. Il y a le poste d'ingénieur du son et le poste de percheman. Alors, l'ingénieur du son, c'est celui qui dirige la prise de son, c'est-à-dire qui choisit les stratégies de prise de son, quel type de micro on va installer, qui va aussi avoir le dialogue avec le metteur en scène pour essayer d'avoir les meilleures dispositions pour que le son soit de bonne qualité, et qui dirige la stratégie et qui équilibre aussi les niveaux à la console pour que le son sonne en fait. Et après le percheman, son rôle c'est de placer le micro au-dessus des comédiens, donc de tenir la perche, et de faire en sorte que le micro soit au-dessus des personnes qui parlent.
La perche, c'est toujours en supplément des micros des personnes, ou c'est l'inverse?
Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le micro principal de la prise de son, c'est le micro qui est sur la perche, c'est ce qui structure la prise de son. Et après, les micros qui sont sur les comédiens viennent en appoint si la perche n'est pas suffisante, s'il y a des problèmes de distance, de bruit de fond, etc. Ça permet de redonner de la présence, redonner un peu de clarté sur la voix. C'est d'abord la perche et ensuite le micro sur les comédiens, parce qu'en termes de timbre, le micro qui est sur la perche est de bien meilleure qualité. Enfin, ça résonne dans la pièce parce que bon, il y a la voix, il y a le timbre, mais il y a aussi l'acoustique qui est autour, qui est importante pour le cinéma parce que les acteurs sont dans un décor, donc il faut que ça vive dans l'acoustique. Et dans les choix de l'ingé son, par exemple, sur les choix des micros, on va choisir des micros qui permettent aussi d'avoir la qualité de voix par rapport à l'endroit où on est et se dire bah, là, j'ai envie que ça sonne, laisse un peu plus résonner la pièce. J'ai envie d'un timbre un peu plus brillant, un peu plus rond. On choisit aussi en fonction des voix des comédiens et des lieux dans lesquels on tourne.
Tu accumules des postures contraignantes pendant tes journées. Comment une perche, du coup, tu dois toujours être en posture debout à la portée?
Oui, après, c'est vrai que assez vite, on développe des façons de ne pas se fatiguer avec une perche. Parce que assez vite, si on prend des mauvaises postures avec la perche, si on fait trop porter sur les bras, par exemple, on peut pas tenir longtemps, on peut pas tenir les prises. Si on prend la perche en écartant trop les bras, par exemple, au bout de 2-3 minutes, on tétanise et on n'arrive plus à travailler. Donc assez vite, on développe des façons aussi d'avoir des positions de repos durant les prises ou d'avoir une façon de supporter la perche sur l'ensemble du corps et pas juste sur les bras ou les épaules. Déjà pour une question juste presque de physique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est impossible de tenir que sur les bras, on tétaniserait trop vite. Donc ça permet aussi d'avoir des positions un peu, permettre d'être soulagé. Mais bon, oui, il y a des séquences où c'est dur physiquement. Quand les perches sont très longues, des scènes très fixes, avec des perches très longues, des micros un petit peu lourds, ça impacte le physique. Et on est un peu moulu à la fin de la journée, c'est important de bien se reposer le soir.
Est-ce que le poids des dispositifs que tu utilises lors d'un tournage ont évolué? Est-ce que depuis le début de ta carrière, c'est un peu moins lourd? Est-ce que tu vois une différence ou pour toi, il y a plutôt une stabilité?
Alors, au niveau de la perche, ça n'a pas beaucoup évolué parce que le travail a déjà été fait avant que j'arrive. À savoir que les perches aux années 80, c'était des perches en aluminium. Maintenant, on est sur des perches en carbone, donc ce sont quand même des matériaux très légers. Ça n'évolue pas beaucoup à ce niveau-là. Après, quand on est ingé son, on est amené aussi à être des fois en portable, c'est-à-dire de porter l'enregistreur en sacoche sur le dos. Et ça, à ce niveau-là, par contre, oui, les enregistreurs ont tendance à s'être allégés. Tout ce qui est récepteur des micros, c'est des technologies qui ont eu tendance à s'alléger au fil des années, quoi. Parce que on est passé des batteries au plomb aux batteries lithium, par exemple, ne serait-ce que ça. Ça change quand même pas mal de poids.
Qu'est-ce qui te plaît le plus sur un tournage en tant qu'ingénieur du son?
En tant qu'ingénieur du son ou en tant que perchman? Parce que c'est vraiment deux plaisirs très différents. C'est-à-dire qu'en tant qu'ingénieur du son, on a le casque, on est à l'écoute, on module en même temps que la voix du comédien, donc on est suspendu à ses moindres gestes, on a une intensité d'attention sur ce que font les comédiens, sur la prise, etc. Il y a vraiment une adrénaline très forte à ce niveau-là. Et sur le geste du doigt de moduler quand ça va chuchoter, quand ça va crier, d'équilibrer, il y a vraiment quelque chose de très intense sur la prise. Et après, à la perche, c'est vraiment d'interagir avec tout le monde. On est la personne qui bouge le plus avec le comédien. Donc c'est pareil, on est attentif à ce que font les comédiens, mais c'est pas du tout les mêmes gestes, c'est pas du tout les mêmes choses. Il y a aussi un balai quand on est avec des caméras à l'épaule, par exemple. On doit se coordonner avec la caméra, voir comment l'équipe bouge, comment les comédiens bougent. Et du coup, c'est une gymnastique assez plaisante de synergie, d'équipe et de bouger avec les comédiens, quoi. C'est vraiment moi, c'est ce qui me plaît en tournage, c'est d'être aux avant-postes, de voir les comédiens travailler, de les sentir bouger, de bouger avec eux, d'être dans cette attention-là, chaque instant pendant les prises. Il y a vraiment une intensité pendant la prise qui est assez folle, quoi.
Nerveusement, en fin de journée, tu te sens comment? Est-ce que tu te sens très fatigué? Ça, c'était peut-être au début de ta carrière, ou comment tu te sens depuis que tu as commencé à bosser?
À la perche, c'est une question de confiance. Si on sent qu'on est en confiance et qu'on a aussi la confiance des autres, on va avoir tendance à être beaucoup plus détendu, à pouvoir un peu plus être concentré sur ce qu'on fait et en même temps le faire sans se poser la question de est-ce qu'on fait bien. Parce que ça, c'est terrible quand on est remis en cause en permanence. Ben on passe plus de temps à réfléchir à mince, il faut pas que je fasse d'erreur, plutôt qu'à être concentré sur ce qu'on fait. Et du coup, ben on fait plus d'erreurs. Et c'est une espèce de cercle vicieux qui est assez difficile parce que ben, plus on fait des erreurs, plus on sent que l'équipe commence à ne plus nous faire confiance. Et c'est assez difficile. Et c'est vrai que dans cette situation-là, c'est important par exemple d'avoir le soutien de l'ingénieur du son. L'ingénieur du son, c'est notre binôme, quoi. Et sentir. Quand on est ingénieur du son, d'avoir un soutien à son perchman, presque inconditionnel, même quand il fait des erreurs, parce que c'est pas en le remettant en cause qu'il va faire mieux, en fait. Au contraire, nerveusement, si on n'a pas la confiance de l'ingé son et de l'équipe, ça peut être dur. Mais sinon, non, c'est pas nerveusement que ça se joue, parce que c'est vraiment un état de concentration qui est assez plaisante. C'est vraiment de l'ordre de l'adrénaline. Il n'y a pas de fatigue nerveuse, quoi. Quand on est sur le tournage, qui se passe bien en tout cas. C'est vraiment. Physiquement, il peut y avoir des journées qui sont difficiles, mais non, c'est plutôt un plaisir d'être sur un tournage quand ce qu'on filme est intéressant et quand ça se passe bien, quoi.
Est-ce que c'est difficile de trouver du travail dans ton domaine, pour le type de poste que tu exerces?
Je pense qu'on est. C'est pas plus difficile pour moi que pour d'autres intermittents. Je pense qu'on en est tous un peu à avoir un peu les mêmes méthodes, c'est-à-dire avoir un réseau, d'être appelé, d'entretenir ce réseau. Et c'est vrai qu'il y a ce phénomène qui fait que quand on a un décrochage, c'est-à-dire que pour une raison X ou Y, on disparaît un petit peu, eh ben, il faut se resignaler, quoi. Il faut signaler qu'on est encore là. On peut pas disparaître pendant 6 mois et après réapparaître. Les gens qui bossent avec nous, à un moment, si on n'est plus là, ils vont bosser avec d'autres personnes, c'est normal. Une fois qu'ils bossent avec d'autres personnes, mais ils vont continuer de bosser avec ces gens-là. C'est pas personnel, c'est pas, y a pas d'intention de nous nuire ou de, y a même pas de fâcherie. C'est juste que quand on est habitué à bosser avec des gens, on continue de bosser avec ces gens-là, quoi. Donc au niveau de trouver du travail, ben c'est assez paradoxal parce qu'il peut y avoir des moments où il n'y a rien pendant 8 mois, puis d'un seul coup ça arrive tout ensemble. J'ai remarqué quand même que ça peut. Ça arrive plusieurs fois ça, où d'un seul coup il y a le boulot qui arrive tout en même temps et on a envie de tout faire, quoi. C'est ça qui est difficile. Donc il faut arriver à sélectionner quand il faut ou essayer de ménager, dire attendez, je suis dispo 2 semaines après, est-ce que c'est possible? Pour essayer de tout faire. Parce qu'on est tellement frustré quand il n'y a pas de travail que quand il y en a, on n'a pas envie de refuser, quoi.
Et la crise du Covid, ça t'a empêché de bosser longtemps ou c'est quelque chose qui a été assez périodique?
Alors, moi, la crise du Covid, j'ai un truc assez paradoxal, c'est que ça s'est couplé aussi avec le fait que j'ai eu mon premier enfant en août 2019. Donc, quand est arrivée la crise du Covid, on n'avait pas de moyen de garde. Et du coup, trouver un moyen de garde pendant la crise du Covid, ça a été un peu compliqué. Donc, je me suis retrouvé à m'occuper de mon fils pendant toute la crise du Covid. Pour le coup, quand je parlais de disparaître, là, j'ai vraiment disparu pour tout le monde, quoi. Mais en même temps, ça arrivait en adéquation avec la crise du Covid, qui a arrêté quand même pas mal d'activités. Enfin, ça a arrêté pas mal d'activités, surtout au printemps. En été, les gens ont tourné. Donc, moi, pour le coup, j'ai pas tourné. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu une prolongation des droits d'intermittence de décembre 2020 jusqu'à 2021, ce qui m'a permis de reconstituer mes heures quand la crise s'est terminée, qu'on a eu une place en crèche, quoi. Donc en fait pour moi c'est assez paradoxal, c'est que à la fois c'est le Covid, mais c'est aussi parce que j'ai gardé mon fils à la maison. Donc est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est l'enfant? Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir pu avoir mon statut prolongé du fait du Covid.
Si je me trompe pas, tu as eu aussi un deuxième enfant. Comment on gère l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle? Comment on organise une vie de famille? Comment on fait pour se réaliser aussi au-delà du travail lorsque on a un métier qui fait que on peut être appelé pour travailler dès le lendemain ou ne pas bosser pendant un mois? Comment on s'organise?
Alors, sauf qu'avec avec mon épouse, avant même d'avoir des enfants, on s'est rendu compte que le fait d'être moi intermittent et elle sur un poste fixe, ça posait déjà un problème tout bête de quand est-ce qu'on prend du temps ensemble et des congés ensemble. C'est-à-dire qu'on a eu 2-3 ans où en mars, sur un poste fixe, on doit poser les congés. Donc moi j'avais rien par exemple, disons en novembre. Donc elle décide de prendre ses congés en novembre, et puis bah, évidemment j'ai un long métrage qui arrive en novembre, et elle se retrouve toute seule pendant ses congés. Donc assez vite on s'est dit bon bah ça ne fonctionne pas, parce que le fait d'avoir moi une profession un peu aléatoire et discontinue, et elle un poste avec des obligations assez fixes, ça permettait pas d'avoir une façon de vivre satisfaisante. Donc là elle a fait l'effort de changer de poste. Maintenant elle travaille en intérim, ce qui lui permet d'être plus flexible sur les moments où elle travaille et travaille pas. Et donc aussi d'adapter quand moi je suis en tournage ou pas. Donc ça, c'est la façon qu'on a eu de s'adapter. Et maintenant qu'on a les enfants, effectivement, il y a aussi un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que quand je suis en tournage, elle doit forcément, parce qu'elle travaille de nuit, elle doit forcément s'occuper des enfants et donc ne pas travailler. Donc c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que je ne peux pas non plus dire je pars 6 mois en tournage. Il n'y a rien qui est fixe, en fait. On s'adapte en permanence. Vraiment, on dit, bon ben voilà, là je... Je trouve quelque chose qui fonctionne pas mal. Je fais plus de montage, par exemple, par rapport à avant où je faisais beaucoup de tournage. Donc là, je me retrouve à faire plus du montage, ce qui me permet d'être à la maison le soir, d'avoir des horaires un peu plus standardisés aussi. Et en même temps, d'avoir, sur les moments de tournage, d'avoir notre organisation qui me permet aussi de partir en tournage quand j'ai la possibilité de le faire. Donc voilà, c'est tout un équilibre aussi. C'est pas, en fait, quand on fait du tournage, on se rend compte qu'on implique nos compagnes ou compagnons, les enfants, les grands-parents. Il y a tout un entourage qui est impacté par ça. C'est tout un équilibre où les gens doivent être d'accord, déjà. Il faut savoir trouver la jauge, savoir. Quand est-ce qu'on peut demander les choses? Quand est-ce qu'on dit, bon là, on a un peu trop tiré, il faut être raisonnable. Puis aussi l'envie, c'est-à-dire que partir 5 semaines en tournage sans voir ses enfants, ben, surtout quand ils sont petits, 5 semaines c'est long, quoi. C'est tout bête, hein, personnellement déjà, j'allais dire égoïstement. Ne pas voir ses enfants pendant longtemps, c'est pas évident. On n'a pas des enfants pour pas les voir. Donc c'est un travail, ben voilà, rien n'est fixé, quoi. C'est mouvant, quoi.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé en 2014 lors d'un tournage?
Alors, en fait, c'est plutôt sur l'enchaînement des tournages. C'est-à-dire que j'ai enchaîné deux tournages un peu physiques à la perche. Et je me suis fait une très grosse contracture qui m'a même, à la fin du deuxième tournage, m'a empêché de dormir totalement et tout. J'ai dû aller faire beaucoup de séances de kiné et tout. Et j'ai toujours un. Bon, elle ne m'handicape pas au quotidien, mais c'est quelque chose où j'ai toujours le point de sensible, quoi. Dans le dos, je sais. Voilà. Bah, c'est du fait de l'enchaînement parce que pour le coup, je m'étais plutôt bien préparé à cette époque-là pour faire le tournage. Malgré tout, ça a été un peu trop, quoi. Donc, quand je dis bien préparé, c'est avant tout faire des exercices pour renforcer ce qui est les abdominaux, les dorsaux, les épaules. Avoir voilà, en gros un gainage qui permet d'avoir le poids de la perche sur l'ensemble du corps sans compenser sur une partie ou une autre. Comme je savais que j'allais avoir cet enchaînement-là, j'avais particulièrement travaillé pour arriver prêt quoi, et pas souffrir. Et malgré tout, ça m'a pas empêché de me faire cette contracture. Et surtout, je pense ce qui a un peu aggravé le problème, c'est que je me suis fait la contracture, donc j'avais le dos complètement bloqué. Je me suis fait débloquer le dos par un kiné un peu en urgence pour pouvoir continuer de travailler, finir le film et enchaîner le deuxième film. Là où, raisonnablement, si on a un rapport un peu plus distancié avec le métier, j'aurais pas dû faire le deuxième film. J'aurais dû me poser, me soigner et après reprendre.
Est-ce qu'à d'autres moments, tu as identifié l'impact du travail sur ta santé?
Alors après, c'est vrai qu'il y a un autre moment où quand j'étais plutôt à poste d'ingé son, j'ai développé une fasciite, c'est-à-dire des contractures des fascias de la voûte plantaire. Et j'avais attribué ça à l'époque à des chaussures qui n'étaient pas vraiment étudiées pour marcher, qui étaient un peu des chaussures de ville. Tout ça. Donc j'avais changé de chaussures. J'ai fait pas mal, il y a pas mal d'exercices de massage et tout pour soulager, donc c'était passé. Et je me suis rendu compte qu'une autre fois où j'étais en position d'ingé son, mais vraiment à la console assis, c'est revenu. Donc je pense que je prends une position où j'accumule de la tension dans le pied, bizarrement, quand je suis au poste d'ingé son. Alors ça, j'ai pas creusé encore la question, mais c'est étonnant, quoi. Je somatise sur mon pied droit sûrement un stress ou je sais pas, mais c'est assez étonnant.
Est-ce que tu aurais un conseil santé à donner à quelqu'un qui débute dans ce métier?
Déjà, pas négliger les temps de repos, c'est bête, mais c'est quand même la base. C'est-à-dire sur les tournages, surtout quand on débute, on a tendance à tirer un petit peu sur la corde, bah, forcément réduire un peu les nuits ou à pas faire forcément attention au temps de repos, c'est important. Je trouve que c'est vraiment la base. Un autre truc qui est important, notamment en tournage, au départ, beaucoup d'enthousiasme, on a envie d'aider tout le monde, d'apporter des choses, etc. Et tout. S'il y a des postes définis pour chacun, c'est aussi parce qu'il y a des exigences physiques, notamment pour chacun. Aider les machinistes à porter la dolly montée 3 étages, c'est très sympathique, mais après, il faut que tu assumes ton travail de percheman pendant toute la journée. Donc, si tu t'es pété le dos à monter la dolly, tu pourras plus faire de la perche. Donc, c'est se ménager et connaître sa place. C'est pas être antipathique que de ne pas faire du dépassement de fonction, en fait. C'est aussi parce que les exigences des uns et des autres nécessitent que ce soit compartimenté. Sinon, il n'y aurait pas de métier. Tout le monde ferait tout.
C'était le 6e épisode de Par Intermittence, un podcast de Tally Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittentes et intermittents du spectacle. Merci à Francis pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Retrouvons-nous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, rendez-vous sur tallysante.org et sur les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.